les préservatifs de la pensée ou comment la philosophie nous préserve de nos préjugés. Une chronique philosophique présentée par Christophe Galli.
Bonjour à tous. Tony Stanguet raconte dans son dernier livre, Pour l'amour du sport, la préparation des Jeux Olympiques de Paris en 2024. Et une anecdote racontée avec le sourire m'a remis en mémoire une mésaventure arrivée à Aristote. Aristote, comment cela ? Tony Stanguet raconte que la DGSE, nos services secrets, l'avait mis en garde contre la possibilité que des nations jalouses envoient des jeunes femmes blondes le séduire. Qu'une espionne venue du froid s'approche de lui pour le séduire devait être immédiatement un signal d'alarme. Le but sera de lui soutirer des secrets sur l'oreiller. Un truc vieux comme le monde qui fit sourire l'athlète. Peut-être estimait-il qu'il aurait facilement résisté au charme de cette espionne. Ou fut-il vexé qu'on lui annonce qu'il était impossible qu'une femme tombe sous son charme sans arrière-pensée. Quoi qu'il en soit, il trouva ce conseil ridicule.
On a un cours avec la DGSE parce que on se dit attention, vous allez être probablement espionné, un peu attaqué, donc il faut faire attention quand vous envoyez des emails, ne vous connectez pas au Wi-Fi des aéroports et ainsi de suite, parce que tout ça n'est pas sûr. Et si un jour une belle blonde vient vous draguer, méfiez-vous. Il y a peut-être un truc, parce que c'est pas normal.
Parce qu'une blonde pas belle, ça passait.
Que ne lui en déplaise. D'autres, et non des moindres, se sont fait prendre dans de tels filets. Une légende célèbre, pendant tout le Moyen-Âge, raconte comment le philosophe Aristote, maître de l'impétueux Alexandre le Grand, s'est retrouvé dans les bras d'une jeune femme qui voulait le dominer. Cette histoire, connue sous le nom de « Lais d'Aristote », est une satire du soi-disant pouvoir de la philosophie qui protégerait les hommes du désir de la chair. Il raconte comment on peut être un grand intellectuel, voire un savant respecté de tous au soir de sa vie, et être manipulé comme un adolescent juvénile par une femme.
Je vais vous avoir mes petits gluants si vous approchez de mon crochet. Du haut de mon rocher sournoisement, je vais vous embrocher mes brochets. Remuez-vous dans vos remous, plus vous vous cachez, plus j'aime ça. Je vais vous trouver dans vos petits trous, je vais vous faire gruger mon appât. J'aime la pêche, oui c'est mon passe-temps préféré. J'aime la pêche, ça me permet de tout oublier. J'aime la pêche, ça me détend, ça me fait rêver. J'aime la pêche.
Voilà l'histoire. Aristote, qui avait pour élève Alexandre le Grand, reprocha à ce dernier de se laisser déconcentrer de ses royales fonctions par la courtisane Phyllis, dont il était éperdument amoureux. Obéissant, le brave roi de Macédoine cesse donc de fréquenter la donzelle et s'en retourne traiter les affaires de l'État. Apprenant les raisons de son abandon, la Gourgandine décide de se venger du vieux philosophe et tente de le séduire en se pavanant sous ses fenêtres en tenue légère. Notre philosophe tombe sous le charme. Phyllis annonce alors au sage que s'il veut la posséder, il devra d'abord se livrer à un petit caprice et, scellé et bridé, se laisser chevaucher par la belle. L'éminent barbu accepte ce jeu sans se douter du tour qu'on est en train de lui jouer. En selle et voilà Phyllis qui se promène à dos d'Aristote dans les jardins du roi, le fouettant pour le faire avancer. Alexandre, du sommet de sa tour, assiste à cette scène accablante. Amusé, il reproche tout de même à son maître de n'avoir point de raison et d'avoir cédé au jeu de la tentation. Le philosophe est bien contraint d'admettre qu'il n'a su résister à son désir, mais profite de la situation pour donner la leçon à son pupille. Si même le sage succombe, que de précautions doit prendre le jeune et fougueux Alexandre pour ne pas se laisser prendre au piège de la séduction ? Nous pouvons bien entendu rire de la situation en imaginant comment celui qui est considéré comme l'un des pères de la philosophie n'a pas pu résister à ses pulsions sexuelles. La situation s'appuie sur la faiblesse des sens et nous rappelle comment le monde obéit à des lois qui semblent éternelles. Mais l'affaire est plus sérieuse que cela. À la fois, elle traduit un débat crucial sur la domination entre le corps et l'esprit, mais aussi sur une certaine vision de la femme qui apparaît comme celle qui manipule. L'ombre d'Ève qui aurait poussé Adam à la faute n'est pas si loin. Et cette histoire sert un certain conservatisme religieux et moral. Homme de pouvoir, méfiez-vous de la femme séduisante. Elle vous perdra.
Je vous prie, avant que de parler, prenez-moi ce mouchoir.
Comment ?
Ouvrez ce sein que je ne saurais voir. Par de pareils objets, les âmes sont blessées, et cela fait venir de coupables pensées.
Vous êtes donc bien tendre à la tentation, et la chair sur vos sens fait grande impression.
Mais commençons par le premier axe. L'esprit peut-il se libérer du pouvoir du corps ? Depuis Platon, c'est une question presque existentielle. Dans le Phédon, qui raconte la mise à mort de Socrate en 399 avant notre ère, apparaît le thème de la libération de l'esprit grâce à la mort. Philosopher, c'est apprendre à mourir. Je cite Platon. « Quand donc, dit Socrate, l'âme atteint-elle la vérité ? En effet, lorsqu'elle entreprend d'étudier une question avec l'aide du corps, elle est complètement abusée par lui. Cela est évident. N'est-ce pas alors que l'âme du philosophe méprise le plus le corps, le fuit et cherche à s'isoler en elle-même ? Ces phrases attribuées au philosophe aux portes de la mort ont marqué durablement le monde occidental. Car il soulignait le décalage entre corps et esprit au profit de ce dernier qui avait la possibilité d'être immortel. Le libéré du corps, c'était le libéré des besoins qu'il asservissait. Besoin de manger, de boire, mais aussi le désir sexuel qui pervertissait la beauté de la pensée pure. Socrate lui-même ne s'était-il pas retrouvé devant un tribunal en partie parce que son amant, Alcibiade, avait trahi Athènes lors de la guerre contre Sparte ? Le corps est faible et corruptible, mais surtout méprisable, car c'est ce qui nous rattache à notre condition animale. L'esprit et la conscience, c'est la part immatérielle de notre être, qui peut nous élever au-dessus de notre condition de mammifère évolué. L'âme doit donc se libérer du corps absolument. Ce sera le leitmotiv de la morale chrétienne, dominant tout le Moyen-Âge, et le lait d'Aristote devint une figure rituelle utilisée à de nombreuses reprises dans les manuscrits. Il fallait mettre en garde contre le démon sexuel.
Black trombone, monotone, elle se donne à demi nu, frissonne, déraisonne, m'empoisonne,
et ce démon était souvent représenté par les femmes, notamment celles qui avaient de mauvaises mœurs, considérées comme condamnables, notamment dans une position, l'icus eroticus, c'est-à-dire être à cheval sur l'homme, ce que la jeune Phyllis n'hésita pas à faire sur Aristote. Honte à elle. Notons bien qu'Aristote ne perdit pas sa réputation de grand penseur, et il fallait continuer à lire ses principes moraux, alors que c'était un vieil homme qui désirait une femme qui aurait pu être sa petite fille. Un sugar daddy, comme disent les anglo-saxons.
Vous prenez un verre avec moi ?
Jamais pendant le service. Et puis sans blague, j'aime pas le porto. Comment trouvez-vous la soubrette ? Vous n'avez pas un petit peu envie de la soubrette ?
Ma foi, non, pas du tout.
Oh, et la patronne ? Vous n'avez pas envie non plus de la patronne ?
Elle me plaît bien, la patronne.
Ah, elle te plaît bien ?
Oui.
Eh ben toi, tu perds pas de temps, alors. Bien, je t'adore.
Certes, Aristote était connu pour avoir élaboré la théorie de la prudence. Nous vivons dans un monde où la corruption, dans tous les sens du terme, règne et il faut savoir s'adapter en adoptant un jugement modéré en toute chose pour délibérer sur ce qu'il convient de faire en fonction des circonstances. Ainsi, je cite Aristote, c'est en bâtissant qu'on devient bâtisseur et c'est en jouant de la cithare qu'on devient cithariste. De la même façon, c'est aussi en exécutant des actes justes que nous devenons justes, des actes tempérants qu'on devient tempérant, des actes courageux, qu'on devient courageux. Extrait de son célèbre livre « L'éthique à Nicomaque ». Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'avait pas assez pratiqué pour s'éviter les ennuis liés au plaisir de la tentation. Mais pour autant, son image resta vierge. Nos étudiants en philosophie ignorent tout aujourd'hui de ses faiblesses charnelles pour se concentrer sur ses leçons de philosophie. Bien entendu, ce ne fut pas le cas de la jeune fille, Phyllis, qui certes ne fut pas une grande intellectuelle, quoi qu'on n'en sache rien, et qui fut traînée dans la boue. C'était elle qui avait cherché à corrompre la belle âme du philosophe. La faute lui est retombée dessus. La faute, quelle faute ? Celle d'avoir réussi à dominer un homme. Même dans les emportements de la luxure, quoique destinée à être à un rôle passif, elles se portent à l'attaque contre les hommes, que le ciel les extermine. Elles sont si loin poussées leur ingénieuse lubricité qu'elles font l'homme avec les hommes, disait Sénèque, penseur romain et précepteur de Néron, car dominer devrait être le propre de l'homme. Et la luxure, source de corruption, est la perte de la liberté de l'homme qui tombe sous le pouvoir de la femme, surtout lorsqu'elle ose prendre l'initiative. Cela nous renvoie à une vision complète de la société, celle que Margaret Atwood remit en scène dans son roman « La servante écarlate ». La société doit se protéger des femmes trop libres et trop influentes auprès des hommes. Son roman est une dystopie qui décrit une société où les hommes reprennent le pouvoir en réduisant les femmes à de simples servantes, où les relations sexuelles, officiellement, retrouvent une dimension morale et religieuse en se réduisant à la fécondité des femmes obéissantes.
Ça a commencé, hein? Non, parce que je ne sens rien. Nul. Hey, vous me direz quand c'est fini, parce que je peux m'endormir. Hein. C'est Neutrogena. Ma crème pour les mains, c'est Neutrogena.
Mais elle colle même pas.
Eh ben non, c'est ça qui est génial, c'est qu'elle pénètre bien, elle est très légère.
Bon, hey, je dérange, là?
Oh, pardon.
Bah oui, bah faites semblant, au moins, parce que moi, j'ai besoin de focus.
Oui.
Les USA connaissent une telle tendance avec le développement des mouvements conservateurs, des traditional WAV. L'ironie, c'est qu'une des fondatrices d'un mouvement particulièrement influent de nos jours aux États-Unis, Eagle Forum, s'appelle Phyllis Schachfly, même prénom que la jeune femme qui séduisit Aristote. L'histoire se moquerait-elle de nous? Quoi qu'il en soit, le conseil donné à Thierry Stanguet dit quelque chose de la persistance de ces vieux réflexes. Les hommes ont de la peine à résister au charme des femmes. D'aucuns me diront que c'était vrai, et que c'est toujours vrai. Le sexe est une des deux sources principales de corruption, au moins aussi importante que l'argent. On ne compte pas les histoires de responsables qui chutèrent à cause de la faiblesse de la chair. Oui, mais autant d'hommes que de femmes. Faut-il en déduire une grande théorie sur le pouvoir maléfique de la tentatrice? Le mythe de la blonde qui prendrait le pouvoir sur l'homme, intelligent et responsable? Et peut-être juste un écran de fumée. Cette chronique sera rediffusée dimanche à 17h et reste disponible sur le site de Radio Pays des Roses sous forme de podcast. N'hésitez pas à réagir et à m'envoyer des questions ou des commentaires pour prolonger ce petit moment de philosophie. Je remercie RPH Sud et plus particulièrement Solène à la technique et au montage. Et je laisse le dernier mot à Jackie Gélin.